juin 2020, 18 juin 2024. Et voilà 4 ans jour pour jour depuis l'arrivée au pouvoir de Barthélemy Ndayishimiye, une arrivée au pouvoir par une victoire douteuse. D'aucuns, même dans son propre camp, étant convaincu qu'il avait perdu la présidentielle face à un certain Agathon Rwasa. Et c'est ce qui explique la suite des événements, car voilà, Évariste Ndayishimiye semble ne s'être jamais senti dans les bottes trop larges, visiblement, pour lui, d'un vrai président de la République. Ces 4 ans d'errement qui ont fini par mettre à genoux le pays. Le président mal élu à mauvais, voire pire président, le pas a vite été franchi. Aujourd'hui, le pays vogue à volo avec tous les électeurs au rouge et un peuple résigné dans un sort qui semble irréversible. Sans le pouvoir a montré depuis longtemps son incapacité à trouver des solutions, il n'en fallait pas plus pour motiver une nouvelle synergie des médias à la présentation de cette synergie de la radio Inzamba, la radio publique africaine et la télévision Renaissance. Vous êtes avec Émile Nibasumba et
Eddie Claude Nina Azoué.
Et pour commencer, suivez notre éditorial avec Alexandre Niungeko.
La seule chose dont les Burundais peuvent remercier Évariste Ndayishimiye, c'est d'avoir toujours rendu les choses si facilement visibles et d'avoir tout le temps été lui-même trop prévisible. Ses beaux discours du début de sa présidence n'ont jamais berné personne. Tout le monde attendait de le voir à l'œuvre, mais l'homme n'a jamais bougé d'un iota. Sa stratégie de se plaindre et de verser des larmes de crocodile n'ayant pas payé, le voilà aujourd'hui qui se targue d'abord d'être un homme intensément riche et cerise sur le gâteau d'avoir rendu le peuple burundais prospère et plus heureux qu'il ne l'avait été auparavant. Quelqu'un a dit tout simplement qu'Évariste Ndayishimiye n'est pas dans le déni, mais dans la démence. Quelle justesse! Comment un chef d'État de bon sens peut-il oser se proclamer le meilleur du monde au moment où il a mis le pays à terre s'il ne l'a pas enterré? Tout est à l'arrêt dans le pays, comme si le temps s'était totalement arrêté. À commencer par l'économie. Depuis qu'il s'est juré de s'occuper personnellement du problème de carburant, la pénurie de l'or noir a sans discontinué élu domicile dans le pays des mille collines, et aujourd'hui tous les véhicules, à part les siens et ses proches, sont à sec. Plus de voitures privées, plus de véhicules de transport en commun. Les rues sont complètement vides. La seule alternative pour les Burundais, où qu'ils se trouvent et qui qu'ils soient, étant de marcher ou de rester à la maison. Dans de telles conditions, les marchés ne peuvent plus être achalandés en peu de produits encore disponibles, même de première nécessité. Les services d'urgence ne fonctionnent plus. Même chose pour les usines et les entreprises dont les équipements requièrent du carburant et qui sont toutes en faillite. Du coup, les prix explosent et atteignent des sommets inimaginables pour tous les produits. Aujourd'hui, la majorité des Burundais peuvent à peine manger une fois par jour. Incorrigible qu'il est, Évariste Ndayishimiye vient de déclarer que la récolte a été surabondante dans tout le pays. Par quelle magie, alors qu'il n'y a plus de fertilisant? Dans son style trop unique, il avait ironisé que les Burundais n'avaient pas besoin de dollars et d'euros. Ironie du sort, c'est justement le manque de devises qui est la source de la grave crise économique de l'histoire du Burundi, avec des endémies qui ont pour nom corruption et détournement de fonds. Dans un pays sans électricité ni eau courante, un pays qui se recroqueville sur lui-même, en fermant unilatéralement et sans raison ses frontières avec le Rwanda, que faut-il en espérer? Sur le plan sécuritaire, un climat d'insécurité s'est généralisé. Des assassinats ciblés et des enlèvements ont toujours accompagné le parcours du président dans une atmosphère rythmée par des explosions de grenades dans des espaces publics et des attaques armées. Les morts ne se comptent plus. Et comme si les victimes internes ne suffisaient pas, ne voilà-t-il qu'Évariste Ndayishimiye expédie les militaires de son armée dans des charniers en République démocratique du Congo où nos soldats sont tués et capturés par dizaines, et poussant son cynisme au paroxysme, le même Ndayishimiye déclare qu'ensuite, il ne les connaît pas. Que dire de la politique, à part que l'opposition n'a autant été malmenée que sous le régime Ndayishimiye, avec le CNL comme cible privilégiée, tuant et emprisonnant ses membres à tour de bras, jusqu'à l'enlever à son leader, Agathon Rwasa, celui-là même que l'opinion a la conviction qu'il a gagné la dernière présidentielle, dont les résultats ont été maladroitement truqués pour faire passer Évariste Ndayishimiye. Le régime déclaré du parti unique lui ouvre grandement les portes à de nouvelles victoires sans gloire. Ce 18 juin, Évariste Ndayishimiye va sabrer du champagne dans la totale ignorance des milliers de Burundais qui croupissent injustement en prison, le fait d'une justice sous les ordres. Ceux qui ont purgé leur peine, ceux qui ont été graciés, les détenus politiques, les journalistes Florian Ilangavillé et Sandra Muhoza, sans oublier la brave syndicaliste Emilienne Sibomana, la liste est trop longue pour les citer tous. Cher Évariste Ndayishimiye, il faudrait, et c'est peu dire, toute une encyclopédie pour passer en revue tous vos records abominables dignes de figurer dans le livre Guinness. Estimez-vous heureux qu'on ne parle pas du système éducatif insipide, du mécontentement des fonctionnaires au salaire qui frôle le zéro, et bien d'autres laissés pour compte. Et comme le malheur des Burundais fait votre bonheur, eh bien, bonne fête.
Merci Alexandre Nyungeko, et puis spécifiquement au cours des 4 années au pouvoir, Évariste Ndayishimiye dans le domaine politique s'est nettement effrité au Burundi. Cela s'est matérialisé par le verrouillage de l'espace politique et la persécution sans relâche contre le principal parti de l'opposition, le CNL, par le ministère de l'Intérieur, avec des militants tués, d'autres abusivement emprisonnés. Les détails avec Josephine Jones-Hunzimana.
Depuis son ascension au pouvoir, il y a 4 ans, la situation politique ne s'est jamais améliorée. Après quelques mois au pouvoir, la cour de l'EAC avait été saisie par ceux qui s'opposaient au 3e mandat du feu président Nkurunziza, a déclaré illégal et inconstitutionnel son mandat de tous les dangers. Le président Ndayishimiye n'a pas voulu valider la décision qui a été prise par la cour de l'EAC. Il s'est contenté de dire que le 3e mandat n'était plus d'actualité. Les 4 années du pouvoir Ndayishimiye ont été aussi marquée par le verrouillage de l'espace politique. Les réunions des partis politiques de l'opposition ont été interdites à plusieurs reprises. Le cas le plus parlant est celui du parti CNL, qui a été interdit d'organiser des réunions et congrès du parti par le ministère de l'Intérieur, allant même jusqu'à diviser ce parti en ailes. Ce n'est pas tout. Plusieurs militants du parti CNL, fidèles d'Agathon Rwasa, ont été tués, d'autres enlevés ou portés disparus. Il y a d'autres qui ont été emprisonnés injustement. Les discours de haine ont continué à être tenus et propagés par les dirigeants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à commencer par son secrétaire général, Révérien Dikuriyo. Cela s'est fait entendre dans des réunions tenues avec des jeunes Imbonerakure ou dans des rencontres du parti CNDD-FDD, voire même dans des enseignements dans certaines écoles du pays. Aujourd'hui, le parti CNDD-FDD est devenu parti État. Son secrétaire général prend des fois des décisions en lieu et place du gouvernement.
Merci Josephine Jones et Mouzimana. Passons à l'économie qui s'est caractérisée par une crise sans précédent durant les 4 ans de pouvoir du président Évariste Ndayishimiye. À titre d'exemple, un dollar américain en 2020 se convertissait aux environs de 2800 francs burundais, tandis qu'aujourd'hui, un dollar se convertit à plus de 6000 francs burundais sur le marché parallèle, soit un accroissement de plus de 114% selon les taux de change officiels de la Banque centrale. Un dollar américain équivalait à 1946 francs burundais en 2020, tandis qu'actuellement, un dollar américain vaut officiellement 2882 francs en moyenne, ce qui a par conséquent entraîné une pénurie répétitive des produits sensibles, dont les produits pétroliers, les produits brandis, le sucre, ainsi que presque tous les produits importés. Dany Claire Irakoumba nous fait le point.
Durant les 4 ans passés au pouvoir, la politique économique d'Évariste Ndayishimiye a été caractérisée par beaucoup de slogans et de promesses qui n'étaient pas dans la plupart des cas accompagnées par des actions concrètes. Il s'agit aussi d'une période qui a été caractérisée par la pénurie répétitive des produits sensibles, dont les produits pétroliers, les produits braoudi, les produits pharmaceutiques, le sucre, les fertilisants, les matières premières importées, l'eau et l'électricité. Cette carence a été généralement causée par le manque de devises. À titre d'exemple, selon le bilan de l'Olicom rendu public ce 18 juin 2024, un dollar américain en 2020 se convertissait aux environs de 2800 francs bourg, tandis qu'aujourd'hui, un dollar américain se convertit à plus de 6000 francs bourg sur le marché parallèle, soit accroissement de 114,24%. Selon les taux de change officiels de la BRB, un dollar américain équivalait à 1946 francs-bourg en 2020, tandis qu'actuellement un dollar américain équivaut à 2882 francs-bourg en moyenne. Donc, il s'observe un décalage énorme entre le taux de change officiel et le taux de change au marché parallèle. Par conséquent, la carence des devises a fait basculer la vie quotidienne de tous les Burundis. Cela s'explique par la montée en flèche du taux d'inflation, plus particulièrement sur les produits importés. Cette pénurie des devises est accentuée par le bouchage de toutes les ressources, dont la coopération au développement, les exportations, les investisseurs étrangers, la diaspora et le tourisme. S'agissant des exportations, le bulletin trimestriel de l'Institut des statistiques et études économiques ISTEBU montre que les produits domestiques exportés au troisième trimestre de 2021 sont caractérisés par une forte diminution en comparaison avec la même période de l'année 2020. En effet, le total des exportations du troisième trimestre de 2021 s'est élevé à 47,7 milliards de francs contre 142,4 milliards de francs-bourg au même trimestre de 2020. Par rapport au même trimestre de 2020, les exportations des produits domestiques du deuxième trimestre de 2021 enregistraient un recul de 66,5% environ. Le déficit de la balance commerciale du trimestre est sous analyse, s'élevait à 493,2 milliards de francs-bourg contre 325,5 milliards de francs-bourg au même trimestre d'un an avant, soit une détérioration de plus de 50%. Ainsi, le taux de couverture trimestrielle des importations par les exportations était de 9,4% contre 31,1% au troisième trimestre de 2020. La chute des exportations du trimestre analysé est tirée par la détérioration des exportations de l'or, du café, de la farine, de froment et du tabac. Mais cette détérioration au niveau des exportations est en grande partie attribuée aux non-exportations de l'or observées depuis le quatrième trimestre de 2020. Dans l'entretemps, le pays peine à mobiliser les devises dans un contexte de morosité économique. Les investisseurs étrangers viennent à compte-gouttes et évitent d'engager des capitaux consistants dans une économie fragilisée par la mauvaise gouvernance économique. Malgré les garanties des autorités, le climat des affaires est de loin d'être attractif. Les industries locales accusent un manque criant de matières premières et de ressources énergétiques pour fonctionner à plein régime. Sur le plan de la coopération bilatérale, les partenaires au développement s'indignent de la mauvaise gestion des financements, ce qui ralentit la mise en œuvre des programmes de développement.
Merci Danny-Claire Irakumba. À travers le discours, le président Ndayishimiye n'a cessé de se lamenter que son administration est gangrénée par la corruption et le détournement des deniers publics. Il accuse ceux qui devraient l'aider à éradiquer la corruption de ne rien faire. Il était avec Pierre Garungu.
Vous imaginez que c'est l'Aubert qui organise le sabotage de rentrée de retraite dans les caisses de l'État.
Le début du régime du président Ndayishimiye a été marqué par des lamentations de ce genre. C'était un discours étrange pour une autorité issue du parti CNDD-FDD au pouvoir. Plus d'un s'attendait à un changement. Le président Ndayishimiye a même annoncé de nouvelles mesures pour ceux qui détournent l'argent du contribuable.
Le voleur qui sera attrapé doit d'abord rembourser l'argent volé dans les caisses de l'État. Avant, il y a ceux qui faisaient le choix d'aller en prison pendant 5 ans, sachant qu'il va profiter de l'argent volé après. C'est pourquoi ils ne craignaient pas de voler. Mais maintenant, je leur donne d'abord de rendre l'argent. Ta maison sera vendue pour rembourser l'argent. Puis, tu vas répondre de ton crime économique à la justice.
Avec le temps, le discours du président Ndayishimiye laisse entendre qu'il fait face à une mafia plus forte que l'État.
Moi, je vois qu'il y a une mafia, c'est-à-dire un groupe de gens qui ne veut aucun sou qui rentre dans les caisses de l'État, que ce soit en devise ou en francs-bourg.
Daichimie a aussi avoué, à un moment donné, qu'il n'a pas de stratégie de sauvetage pour l'entreprise para-étatique de communication Onatel qui était en faillite.
On les avait confié la mission de développer Onatel. Ils ont été incapables. Qu'ils rentrent chez eux. Si l'enfant meurt, la nounou n'a plus de boulot. Laissons-les accompagner la faillite de l'Onatel jusqu'au bout et on va voir ce qu'ils vont faire après.
Alors que le pays ne cessait de s'enfoncer dans la pauvreté, paradoxalement, la Banque mondiale accusait le Burundi d'être incapable de décaisser la totalité des fonds alloués au pays. Le ministre des Finances, Odette Niyonzima, a reconnu cela et a avoué que la cause est l'incompétence des cadres chargés d'exécuter ces projets.
Nous avons relevé les défis de lenteur dans l'exécution des projets qui sont financés par la Banque mondiale. Et ces lenteurs sont principalement dues aux gestionnaires des projets qui ne sont pas très appliqués ou alors qui n'ont pas suffisamment de compétences pour pouvoir exécuter rapidement ces projets. Si on n'accélère pas le rythme de décaissement ou le rythme d'exécution de ces projets, ça nous freine dans la demande de nouveaux fonds. Si on se présente à la Banque mondiale pour demander des financements, alors que les financements en cours ne sont pas exécutés à un rythme satisfaisant, ça handicape l'accès à ces nouveaux financements.
Par exemple, sur 188 milliards de dollars américains alloués aux projets financés par la Banque mondiale au Burundi en 2023, seul le décaissement de 59 millions de dollars, soit près de 30% des projections, a été effectué.
Merci Pierre Garoum. Du côté droit de l'homme, la situation est devenue encore plus inquiétante ces 4 ans après l'accession au pouvoir de Ndayishimiye, avec une justice partisane devenue un instrument de répression contre toute voix discordante. Des enlèvements, des emprisonnements arbitraires restent une réalité, mais la justice ne parvient pas à établir les responsabilités des auteurs afin de les punir. Les autorités burundaises semblent nier cette réalité, même si certaines organisations internationales ne cessent de l'exprimer, comme le sous-comité d'accréditation qui a récemment recommandé la dégradation de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de la catégorie A à la catégorie B. Les précisions avec Jean-Marie Ndabashinz.
Depuis l'investiture du président Evariste Ndayishimiye en juin 2020, le Burundi a plongé dans des pratiques répressives héritées de son prédécesseur feu Pierre Nkurunziza. Les enlèvements et autres violations graves des droits humains, y compris les disparitions forcées, sont restés des problèmes persistants sous la présidence de Ndayishimiye. Plus de 560 corps ont été découverts dans la première année de sa présidence, soit en 2021, selon le rapport de SOS Torture Burundi. La campagne Ndondeza a recensé en 2021 plus de 60 personnes qui ont été signalées disparues. Certaines de ces disparitions étaient liées à des enlèvements effectués par des militaires agissant sous les ordres du colonel Ernest Moussaba, responsable de l'enseignement militaire d'alors et ses subalternes. Cette situation contraste avec des assurances données par Ndayishimiye depuis son temps. Ces exactions n'ont jamais cessé, les disparitions forcées continuent jusqu'à présent et les emprisonnements abusifs, s'ils font des fausses accusations, persistent. Cela justifie par ailleurs si les populations dans les prisons ou les effectifs par rapport à la capacité d'accueil ont augmenté jusqu'à 300%, ce qui rend la vie dure dans les prisons comme le dénoncent les associations des droits humains. Depuis la fin de 2023, il y a eu des attaques qui ont ciblé des positions militaires à Gatumba et à Bubanza. Au lieu de faire la lumière, les autorités se sont précipitées pour affirmer, sans aucune preuve, que les assaillants venaient du Rwanda, ce qui a été démenti formellement par les autorités rwandaises. Le mouvement Red Tabara, qui combat le régime en place, a revendiqué cette attaque, précisant un lourd bilan du côté des forces gouvernementales. Très récemment, au centre-ville de Bujumbura, des jets de grenades ont emporté des vies des citoyens. Encore une fois, quelques heures après ces attaques, le gouvernement du Burundi a sorti un communiqué pour accuser le Rwanda. Quant à la justice, le président Ndayishimiye a suivi la ligne tracée par son prédécesseur d'utiliser la justice comme un instrument de répression contre tous ceux qui sont supposés être des opposants. Les Imbonerakure ont été accusés à plusieurs reprises de violences, d'intimidations et d'autres violations des droits de l'homme, y compris des viols contre les femmes. Cependant, la justice burundaise semble souvent fermer les yeux sur ces actes, n'engageant pas de poursuites ou d'enquêtes sérieuses. Bujumbura a connu plusieurs attaques à la grenade ces dernières années. Ces attaques, qui ont souvent visé des civils, n'ont pas toujours fait objet d'enquêtes approfondies, laissant des responsables impunis. Certains juges et magistrats brillent par leur zèle dans des procès biaisés et des condamnations sévères signalées par des organisations de défense des droits de l'homme. L'emprisonnement des journalistes pour l'exercice de leur métier justifie son comportement d'une justice à genoux.
Jean-Marie Ndabashinze, dans la synergie des médias, le domaine militaire n'a pas été épargné par la mauvaise gestion du pouvoir Ndayishimiye. Beaucoup de soldats burundais ont été forcés d'aller en RDC pour combattre le mouvement M23. Nombre d'entre eux ont été tués, blessés, d'autres capturés. Leurs familles sont toujours dans la désolation totale. Bon fils Niongen.
Tout a commencé à partir du mois de novembre 2023 avec l'annonce de la fin du mandat de la force régionale de l'EAC jugée inefficace sur le terrain dans le combat contre le mouvement M23 et que le président Evariste Ndayishimiye avait comme prétexte d'avoir conclu un accord bilatéral avec la République démocratique du Congo a décidé l'envoi des troupes burundaises pour combattre le M23 aux côtés des FRDC et des FDLR. Plus d'un se sont posé la question de savoir comment le Burundi peut se faire passer pour un pays de la SADC et envoyer ses troupes comme pays contributeur. Cela cachait mal d'autres raisons du président Ndayishimiye selon beaucoup d'observateurs. Par ailleurs, selon la constitution de la République du Burundi, celle-ci empêche le chef de l'État à agir seul sur une question aussi sensible comme celle-là. Il est dit à l'article 256 de la Constitution de la République du Burundi que le président de la République doit consulter les instances habilitées et informer le Parlement et de façon détaillée, notamment sur les raisons de l'envoi de la force nationale, l'endroit et la période pour laquelle cette force sera déployée, ce qui n'a pas été fait. Une certaine opinion a déclaré que le président Ndayishimiye a littéralement foulé au pied la réglementation à la matière et a envoyé les militaires burundais sur le champ de bataille en RDC. Les militaires devraient combattre le mouvement M23 aux côtés des forces armées congolaises FRDC, les FDLR, mouvement connu pour avoir commis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Sur le champ de bataille, plusieurs militaires burundais, ses officiers subalternes, des sous-officiers, des hommes de rang ont été sauvagement tués, blessés, d'autres capturés par le mouvement M23 depuis novembre et décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Les familles des victimes sont aujourd'hui dans la désolation totale. Les unes n'ont pas pu les enterrer dignement. Les autres disent n'avoir pas de nouvelles de leurs qui sont des blessés ou des capturés. Et les militaires sont terrorisés pour une quelconque question en rapport avec ce déploiement des militaires burundais au Congo, mais également la population civile constituée par des familles de militaires sont terrorisées pour ne poser aucune quelconque question en rapport avec le déploiement de ces militaires au Congo et de se croire sous l'étendard et uniforme des forces armées congolaises FRDC.
Merci, bon fils Niongere. Le secteur éducation est l'un des secteurs qui n'ont pas cessé d'être politisés durant les 4 ans de pouvoir de Ndayishimiye. Nous sommes au point où les examens sont reportés pour que les élèves puissent aller accueillir un responsable du parti au pouvoir. Selon le mouvement MAP Burundi Buhire, cela a affecté la saveur de l'éducation. Le mouvement MAP Burundi Buhire parle entre autres d'un très bas niveau de la connaissance de la langue française. Je vous propose de suivre Libéra Nibashira Kandi. C'est le porte-parole du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire.
Les investissements ne représentent que 9,6%. Ce faible niveau des investissements dans le domaine de l'éducation se traduit par la détérioration des conditions d'accueil, le manque d'équipements et de consommables pour les laboratoires, le manque d'outils pédagogiques et affecte la qualité de l'enseignement et bien sûr le niveau des élèves. S'agissant de la qualité de l'éducation, les indicateurs restent faibles en raison des insuffisances de supervision due à un manque de moyens logistiques, des lacunes dans le renforcement des compétences des enseignants, des infrastructures scolaires appropriées et des insuffisances en matière d'équipement scolaire, matériel didactique et pédagogique adéquat. Le problème qui date de manque de bancs, pupitres, livres persiste malgré les nombreuses promesses non tenues par les autorités. La réforme école fondamentale a été évaluée par un cabinet burkinabé financé par l'UNICEF. Le rapport a été validé mais n'a jamais été rendu public et une façon de cacher l'échec, la réforme fut un fiasco. Les états généraux de l'éducation ont été organisés en 2022. Quelques bonnes idées ont été émises, mais qui sont restées lettres mortes. Le système éducatif burundais a été beaucoup plus politisé au cours des 4 dernières années, comme en témoigne le report des examens de ce vendredi dans la zone Kigwena et qui sont reportés pour samedi suite à la visite du secrétaire général du CNDD-FDD à Murunga. La proportion d'enfants incapables de lire et de comprendre un texte adapté à leur âge de 10 ans est estimé par la Banque mondiale, l'UNESCO et d'autres organisations à 96%, ce qui explique le niveau d'abandon et le redoublement élevé, soit 26% au fondamental et 17% au post-fondamental en 2019. Pour l'enseignement supérieur et universitaire, la réforme BMD n'a pas été comprise ni par les enseignants, ni par les autorités, encore moins les étudiants, et les conditions de travail des étudiants se détériorent au jour le jour. La conséquence est que le niveau a fortement baissé, et plus particulièrement le niveau en français est dramatique.
Vous suivez la synergie des médias, des acteurs des différents secteurs de la vie au Burundi ne sont pas restés indifférents à ce jour, pas comme les autres. Par exemple, dans le domaine des droits de l'homme, le FOCODE a recensé plus de 120 cas de disparition forcés durant les 4 dernières années, période au cours de laquelle le président Ndayishimiye est à la commande du pays. Précision de Pacifique Nage qui dirige cette organisation de la société civile indépendante pour cet activiste qui coordonne également la campagne d'Ondesa, unifiée dans l'objectif d'alerter sur des cas de disparition forcée. Le président Ndayishimiye semblait à son arrivée au pouvoir avoir la volonté de stopper les violations des droits de l'homme qui se manifestaient beaucoup sous le règne de son prédécesseur Pierre Nkurunziza, mais cela n'a duré que le temps de la rosée. Écoutons Pacifique Ninirazu.
L'arrivée du président Évariste Ndayishimiye au pouvoir en 2020 avait créé une sorte d'espoir sur l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi. Les 3 premiers mois du régime Ndayishimiye, les gens se souviennent des mesures qui ont été prises contre la milice Imbonerakure, qui n'était plus autorisé à faire des exercices paramilitaires, des rondes nocturnes. Au niveau de la campagne d'Ondesa, nous avions également observé une diminution sensible des cas de disparition forcée de juin à septembre 2020. Malheureusement, le dernier trimestre de 2020 nous a déçus. Tenez, en l'espace de 3 mois, nous avons enregistré 21 cas de disparition forcée opérés par le Service national de renseignement. En 2021, la situation a été catastrophique. Le renseignement militaire, communément appelé G2, a été introduit dans les enlèvements et les disparitions forcées des populations civiles. Un petit groupe d'agents du renseignement militaire a été utilisé pour des enlèvements dans toutes les provinces du pays. Au moins 60 personnes ont été victimes de disparitions forcées en 2021 et ces opérations ont été opérées par le renseignement militaire. En 2022, nous avons noté une diminution sensible des cas de disparition forcée. Seulement 4 cas de disparition forcée ont été enregistrés par la campagne d'Ondesa et ils ils étaient opérés par le Service national de renseignement. En 2023, nous avons observé une nouvelle augmentation des cas de disparition forcée. 10 cas ont été enregistrés et tous étaient opérés par le Service national de renseignement. C'est en 2024 que nous nous inquiétons. Dans les 5 premiers mois de 2024, nous avons enregistré 30 cas d'enlèvement et de disparition forcée, dont 21 personnes qui n'ont jamais été retrouvées jusqu'ici, alors que les 9 qui ont été retrouvées avaient été enlevées et détenues secrètement par le Service national de renseignement, ce qui prouve que c'est le SNR qui est en train d'opérer les enlèvements et les disparitions forcées en 2024.
Pacifique Nazwe dit aussi que la majorité des citoyens portés disparus est composée par des opposants au régime en place au Burundi. Et son défenseur des droits humains d'ajouter que les disparitions forcées sont actuellement opérées sur une allure très inquiétante et que le pire pourrait arriver durant les prochaines élections prévues au Burundi. Encore une fois, suivons Pacifique Liminage.
Les provinces les plus touchées, c'est d'abord la province de Bubanza, spécialement dans la commune de Gihanga, la province de Cibitoke, spécialement dans la commune de Mabayi et la mairie de Bujumbura. Les cibles restent les mêmes, des opposants politiques, des militants du parti MSD et du SNR d'Agathon Rwasa, accusés de collaboration avec le Red Tabara. Les auteurs, c'est toujours le Service national de renseignement qui collabore avec la milice Imbonerakure et certains éléments de l'administration du territoire. Malheureusement, comme cela se passait à l'époque de Nkurunziza, nous constatons une totale impunité des agents des services secrets et des miliciens Imbonerakure et des agents de l'administration impliqués dans ces enlèvements et dans ces disparitions forcées. Durant les 4 ans du régime d'Aishimiye, aucun agent du renseignement n'a été sanctionné pour enlèvement ou cas de disparition forcée. Et sur le total des 4 ans du régime d'Aishimiye, Ndondeza a enregistré 130 cas de disparition forcée, d'enlèvement et disparition forcée, dont 112 qui n'ont jamais été retrouvés et 18 qui ont été retrouvés dans les cachots des services secrets. C'est dire qu'il n'y a donc aucun changement depuis l'arrivée d'Ndayishimiye. C'est encore une fois aussi l'occasion d'alerter les amis du Burundi sur la gravité de cette situation, surtout à la veille des élections de 2025.
Le pouvoir Évariste Ndayishimiye n'a rien apporté de nouveau dans le paysage politique, sauf que les choses évoluent mal pour qu'il reste le parti unique. CNDD, FDD, c'est le constat amer du parti Côte d'Ivoire, d'un des partis politiques œuvrant sur le sol burundais. Kefa Nivizi, le président de ce parti, indique que depuis que Ndayishimiye a accédé au pouvoir, un espoir avait été observé à travers des réunions organisées à l'endroit des partis politiques. Toutefois, cet espoir a duré peu de temps. Le président du parti Côte d'Ivoire explique que plusieurs recommandations des réunions tenues n'ont jamais été respectées et à cela s'est ajouté des lois promulguées pour écarter les autres partis politiques dans les prochaines échéances électorales.
C'était ouais, l'espoir n'a duré que la durée d'une rosée parce que on a constaté une recrudescence des discours de menaces, des chansons, de déshumanisation qui ont continué. Il y a eu également la discrimination des partis politiques et de l'opposition qui ont été en caractéristique très patente de son mandat, de son excellence Vincent Ndayishimiye, où dans les institutions, on n'a pas constaté des personnalités de l'opposition. Et dans le temps, on disait que ce sont elles qui perturbent l'action gouvernementale, mais jusqu'à maintenant, nous voyons que tous les signaux sont au rouge en matière de l'économie et socio-économique, malgré l'absence des membres de l'opposition, ce qui montre que cette perception était fausse. Et on a constaté également qu'il y a un harcèlement des membres des partis politiques, mais aussi le gouvernement a eu un impact très fort dans la déstabilisation du parti CNR. Les choses se sont empirées avec la mise en place de la CENI monocolore construite dans ce parti politique, mais aussi d'un code électoral exclusif qui avait pour mission de mettre de côté les partis politiques qui ne sont pas représentés au gouvernement, parce qu'on y a inséré beaucoup de cautions et on ne peut pas mettre de côté le fait que le travail qui a été fait par les partis politiques sous forme de propositions est parvenu à la présidence avec beaucoup de difficultés. Et même la séance qui avait été préparée pour qu'on puisse échanger là-dessus n'a pas eu lieu, ce qui nous a montré que finalement le travail abattu par les partis politiques n'a pas été considéré. Donc bref, on dirait que le mandat de son excellence Vincent Ndayishimiye n'a pas auguré de bonnes choses dans le domaine politique, mais on a perdu pire parce que l'intention du monopartisme s'agrandit du jour au lendemain, ce qui pourrait aboutir au pied de ce que nous voyons maintenant.
Et la gouvernance et la lutte contre la corruption n'ont pas été érigées en mode de gouvernance ces dernières 4 années. Cela a propulsé les détournements, les réserves de change ont continué à chuter au niveau des facios et rester bas entre autres. C'est le constat de Faustin Dikouma, la directeur nationale de l'ONG locale, PASEM. Selon lui, le gouvernement devrait engager le pays vers un avenir meilleur en profitant de la vision 2040-2060 pour tourner la page de l'histoire. Suivez Faustin Dikouman.
Au niveau des réserves de change, qui a lamentablement chuté, on avait environ 2-3 mois, mais actuellement on a un mois, parfois en dessous des mois. Le stock au carburant, maintenant il n'existe même plus. C'est dramatique parce que le manque de carburant est en train d'arrêter le fonctionnement de tous les services et la vie de la nation. Accès à l'école, à l'hôpital, accès au bureau, circulation des biens, des personnes, des marchandises, des produits alimentaires, propriété à Meïd de Bujumbura, c'est devenu problématique. Le niveau d'inflation actuel bas, le chômage, le sous-emploi, lié au manque de projets à milliers d'hectares, qui fait que après la période de culture, la population sont dans un sous-emploi chronique. La rareté des produits de première nécessité, les boissons, blaroudis, le sucre, le carburant, tout cela est une évidence. Et au niveau des infrastructures, l'eau, l'électricité, les routes, les ponts, l'accès à l'Internet, les entreprises publiques aujourd'hui se sabordent une à une. Les entreprises privées travaillent en sous-activité suite aux problèmes d'accès à l'électricité. Donc tout cela est dit à une situation de gouvernance, de lutte contre la corruption, qui n'a pas été érigée en mode de gouvernement. C'est les conséquences sont fâcheuses, le détournement est devenu monnaie courante, la pignon sur rue, la méritocratie n'est plus d'actualité dans les services publics, la violation des droits de l'homme, la pignon sur rue, et toutes les réformes que le gouvernement veut engager foirent parce que la corruption se généralise de plus en plus. Donc les deux grands mots actuels, c'est le leadership qui a perdu le sens de l'État complètement et la corruption qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale. Les institutions maintenant ne sont plus valorisées, n'ont pas été valorisées, la brigade, certaines ont été supprimées en l'occurrence le ministère de la bonne gouvernance. L'impunité se généralise, de la justice est paralysée. Il y a beaucoup de dossiers, de cas de marvelisation économique flagrant, évident, mais la justice n'ose pas au moins s'engager, même s'il y a des indices sérieux de culpabilité qui sont visibles. Quant aux actions de prévention, la déclaration des biens, pas respecter l'incompatibilité, l'accès à l'information, la transparence budgétaire, la digitalisation, autant d'éléments qui allaient soutenir la lutte contre la corruption. Je lance un appel au gouvernement de profiter de l'existence de la vision 2040-2060. Cette vision devait être une aubaine pour tourner la page de l'histoire.
Les 4 ans de pouvoir du président Evariste Ndayishimiye n'ont pas apporté de changement en matière de liberté de presse au Burundi. C'est l'analyse du journaliste et directeur de la télévision Renaissance, Innocent Mobodi. Pour ce professionnel des médias, le règne de Ndayishimiye a été la continuité du harcèlement et de l'intimidation à l'égard des journalistes. Il souligne qu'il y a encore 2 femmes journalistes en prison pour des raisons infondées dans le but d'empêcher les journalistes de faire leur travail, suivez plutôt Innocent Mose.
Ça a été une continuité de ce qui était déjà là sous Nkurunziza, les médias qui ont été détruits, brûlés, attaqués, etc. 2 de ces médias n'ont pas recouvré leurs locaux, leur matériel qui a été pillé, entre autres. Ceux qui ont tué, assassiné froidement Gheza Waïzi Christophe, cameraman de la RTNB, son épouse, les trois enfants qui étaient en train de réviser leur cours chez eux, en plein après-midi, sorti de chez lui, assassiné devant sa maison, suivi de sa femme et de trois enfants, n'ont pas été poursuivis. Ils sont pourtant connus, puisque c'était une opération de police connue, assumée d'ailleurs par le porte-parole de la police, qui prétendait que c'est des rebelles qui ont été neutralisés. L'enlèvement, la disparition forcée de Bigirima en agent, c'est toujours le flou le plus total, aucune poursuite. Les sept journalistes responsables des médias qui ont été condamnés à la prison à vie, la condamnation est toujours là. La centaine de journalistes qui sont en exil, c'est toujours pareil, ils sont en exil. Aujourd'hui encore, les journalistes sont persécutés. Deux femmes journalistes sont en prison pour des raisons totalement fantaisistes. Le peu de médias qui sont là, quand ils essaient de faire des synergies, ils doivent soumettre d'abord leur thème au CNC qui doit approuver ou ne pas approuver. Donc il n'y a aucun changement, c'est une continuité de ce qui était là sous Nkurunziza, empêcher les journalistes de faire leur travail et par la même occasion essayer de faire obstruction pour que les citoyens burundais ne sachent pas ce qui se passe dans leur pays.
Innocent Muhoozi, professionnel des médias et directeur de la télé et Renaissance. Et pour terminer cette synergie des médias, le pouvoir d'Evariste Ndayishimiye a été caractérisé par une recrudescence d'assassinats, des centaines de cas de disparition forcée, des vols des biens de la population ainsi que les richesses du pays dans une totale impunité, la pénurie des produits de première nécessité sans oublier la montée vertigineuse des prix. Propos des Burundais se trouvant dans différents coins du pays. Selon eux, Evariste Ndayishimiye n'est pas à la hauteur de diriger le Burundi car ils n'ont rien à apprécier sur son pouvoir. Suivez le point de vue de ces Burundais.
Les 4 ans passés sous le régime de Ndayishimiye, aucune amélioration n'est enregistrée car la vie est devenue très chère qu'auparavant. Il boude à la hausse des prix ainsi que les tumultes qui s'observent d'ici et là. On peut signaler aussi que Ndayishimiye ne cesse de se lamenter, je disais que c'est les autres qui périssent pour des activités, mais sans d'action pour se faire.
C'est un gouvernement qui a été caractérisé par la hausse très exagérée des prix dans tous les produits agricoles, sans toutefois oublier les produits venant de l'extérieur de l'État. Donc, la population est en train d'être traumatisée par la famine. Ce gouvernement est aussi caractérisé par la tuerie et le traumatisme de la population à haut niveau. C'est pourquoi on lui conseille de lever la main à temps.
Mon constat est que j'ai dirigé le Burundi dans la même ligne que son prédécesseur, Nkurunziza. On a continué à assister aux disparitions forcées, aux arrestations arbitraires des innocents, à beaucoup de cas d'assassinat, à la corruption qui a pris le devant, à la déstabilisation et à l'anarchisation des partis d'opposition, en l'occurrence le parti SNL. Le terrorisme à l'endroit des opposants, le verrouillage de l'espace politique sont devenus des slogans pour ce régime. Même les réfugiés n'ont pas pu regagner le bercail car rien n'a changé dans le pays. En plus, c'est la première fois dans l'histoire du Burundi que nous observons une hausse et une carence extrêmement élevée des prix des produits de première nécessité, notamment le carburant, les produits alimentaires, pour ne citer que cela. Le régime Ndayishimiye est déboussolé, le pays se trouve dans l'impasse.
Ce qu'on peut dire de là ces 4 ans du régime du SNDD-FDD avec le président Evariste Ndayishimiye, c'est la ségrégation, l'égocentrisme et la discrimination politique. Ils nous ont discriminé les autres partis. On observe aussi la pauvreté qui est partout dans le pays. Et si on essaie de comparer avec les autres années, on voit que la flambée exponentielle des prix, la carence des devises, on ne veut pas dire qu'il y a un développement au Burundi. Et bien qu'on chante que nous sommes dans un pays de déni, c'est fort étonnant de voir la situation du Burundi.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à la synergie des médias, la radio Intamba, la RPA et la télévision Renaissance sur le bilan des 4 ans de pouvoir d'Evariste Ndayishimiye. Merci à toute l'équipe qui a participé à cette production. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, vous étiez avec Émile Nibasumba et
Édicte de Nazé. Merci Émile pour ta complicité. Au revoir.